Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans le monde fascinant de la physique nucléaire en s'appuyant sur des idées du Compendio di Fisica Nucleare. On va aller voir ce qui se cache au cœur même de l'atome.
Bonjour Evelyne. Oui, un univers minuscule, mais incroyablement puissant.
Voilà, notre objectif c'est de comprendre un peu mieux ce noyau atomique, de quoi il est fait, pourquoi certains sont instables, c'est quoi cette histoire de radioactivité? Et puis, d'où vient toute cette énergie nucléaire dont on entend tant parler? L'idée, c'est vraiment de saisir les bases, hein, sans forcément se perdre dans des calculs très complexes.
C'est ça, rendre les choses accessibles.
Pour commencer tout de suite, le noyau, c'est donc cette partie centrale de l'atome, faite de protons et de neutrons. On les appelle les nucléons, c'est bien ça?
Tout à fait, les nucléons, protons et neutrons.
Et on parle souvent d'isotopes. Par exemple, pour l'hydrogène, il y a le deutérium, le tritium. C'est quoi la différence, en fait? Ce sont juste des variations?
Exactement. Alors, le nombre de protons, ça ne change pas pour un élément donné. C'est son numéro atomique, sa carte d'identité si on veut.
D'accord.
Par contre, le nombre de neutrons peut varier. Et c'est ça les isotopes. Même nombre de protons, donc même élément chimique, mais un nombre de neutrons différent. Le deutérium et le tritium, ce sont bien des isotopes de l'hydrogène. Très important d'ailleurs pour la fusion.
Ah oui, d'accord. Et cette énergie alors, cette énergie énorme stockée dans un noyau si petit, vous parliez d'énergie de liaison, comment ça marche?
Alors ça, c'est assez étonnant. Si on pèse un noyau, eh bien, il est toujours un tout petit peu plus léger que la somme des masses de ses protons et neutrons pris séparément.
Ah bon? Il manque de la masse.
Oui, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Mais cette masse, elle n'a pas disparu comme par magie. Elle a été convertie en énergie. C'est la fameuse équation E égale mc carré.
E égale mc carré, bien sûr.
Voilà. Et cette énergie, c'est l'énergie de liaison. C'est elle qui assure la cohésion du noyau, qui tient tout ça ensemble. Plus défaut de masse par nucléon est grand, plus l'énergie de liaison est forte et plus le noyau est stable.
D'accord.
C'est cette énergie-là qui est en jeu dans les réactions nucléaires. Ah, et il faut savoir aussi que les noyaux, un peu comme les atomes, peuvent être dans des états excités avant de revenir à leur état fondamental plus stable.
C'est fou cette conversion masse-énergie. Et du coup, cette notion de stabilité ou d'instabilité, ça nous amène directement à la radioactivité, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe quand un noyau, justement, n'est pas stable?
Précisément, un noyau instable, ben, il ne va pas rester comme ça indéfiniment. Il va chercher à atteindre un état plus stable en se transformant. C'est ça la radioactivité, une désintégration spontanée.
D'accord.
Le noyau père instable se change en un noyau fils, qui peut être différent ou le même, mais moins énergétique, et en faisant ça, il émet un rayonnement. Il y a, disons, trois grands types de désintégration.
Oui.
Vous avez la désintégration alpha, là, le noyau expulse une particule alpha. En fait, c'est un noyau d'hélium, deux protons et deux neutrons.
OK.
Ensuite, la désintégration bêta, là c'est un peu plus subtil, ça implique l'interaction faible, une des forces fondamentales. Soit un neutron se transforme en proton et hop, il émet un électron, ça c'est bêta moins. Soit l'inverse, un proton devient neutron en émettant un positron, ça c'est bêta plus.
Un positron, l'anti-électron.
C'est ça, l'antimatière de l'électron. Et puis, troisième type, la désintégration gamma. Souvent, après une désintégration alpha ou bêta, le noyau fils est encore un peu excité. Il a trop d'énergie. Pour se calmer, il libère cet excès d'énergie sous forme de photons très énergétiques, les rayons gamma.
Et on peut mesurer ça, cette activité radioactive?
Ah oui, bien sûr. L'activité d'une source radioactive, c'est le nombre de désintégrations qui se produisent chaque seconde. On mesure ça en becquerel, BQ.
D'accord, becquerel.
Et pour évaluer l'effet de ces rayonnements sur la matière, surtout sur le vivant, on parle de dose absorbée et de dose équivalente. Ça prend en compte le type de rayonnement et son énergie. Parce que ces rayonnements, ils peuvent ioniser la matière, arracher des électrons ou juste l'exciter.
Et on utilise ça pour des applications concrètes?
Tout à fait. La datation au carbone 14, par exemple, repose là-dessus. En médecine aussi, on utilise des traceurs radioactifs pour suivre des processus biologiques ou la radiothérapie pour détruire des cellules cancéreuses. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on baigne en permanence dans une radioactivité naturelle.
Ah oui, c'est vrai. Bon, alors ça, c'est l'instabilité naturelle. Mais il y a aussi des réactions qu'on provoque et qui libèrent beaucoup plus d'énergie, c'est ça. La fission et la fusion. Commençons peut-être par la fission.
Oui, la fission nucléaire. Là, l'idée, c'est de casser un gros noyau, un noyau lourd comme celui de l'uranium-235. En général, on le bombarde avec un neutron. Le noyau se brise alors en deux noyaux plus petits, et en se cassant, il libère une quantité d'énergie vraiment énorme. L'énergie de liaison qu'ils tenaient ensemble est aussi très importante, ils libèrent d'autres neutrons.
Ah.
Et ces nouveaux neutrons peuvent.
Exactement. Ils peuvent à leur tour aller casser d'autres noyaux d'uranium. C'est le début d'une réaction en chaîne. Si on a suffisamment de matière fissile, ce qu'on appelle la masse critique, la réaction peut s'entretenir toute seule.
C'est comme ça que fonctionnent les réacteurs nucléaires ?
C'est le principe de base, oui. Dans un réacteur, on contrôle cette réaction en chaîne pour produire de la chaleur de manière continue et stable. Cette chaleur sert ensuite à produire de l'électricité. Pour contrôler, on utilise un modérateur, souvent de l'eau, pour ralentir les neutrons et les rendre plus efficaces pour la fission, et des barres de contrôle qui absorbent les neutrons pour freiner ou arrêter la réaction si besoin.
D'accord. Et la fusion, alors ? C'est l'inverse, si j'ai bien suivi. C'est tout à fait l'inverse. La fusion, c'est le processus qui fait briller les étoiles, y compris notre Soleil. On prend des noyaux très légers, typiquement des isotopes de l'hydrogène, comme le deutérium et le tritium, et on les fait fusionner pour former un noyau plus lourd, par exemple de l'hélium.
Et ça libère de l'énergie aussi ?
Énormément d'énergie. En fait, par unité de masse, la fusion libère encore plus d'énergie que la fission. Le problème, c'est que pour forcer ces noyaux légers, qui se repoussent car ils sont chargés positivement, à fusionner, il faut des conditions absolument dantesques.
C'est-à-dire ?
Des températures de plusieurs millions de degrés, comme au cœur du Soleil. Il faut créer un état de la matière qu'on appelle un plasma, une sorte de soupe très chaude où les électrons sont séparés des noyaux. Et ensuite, il faut confiner ce plasma ultra chaud, soit avec des champs magnétiques très intenses, c'est le confinement magnétique, comme dans les tokamaks type ITER, soit en le comprimant très fort et très vite, c'est le confinement inertiel.
Donc c'est encore au stade expérimental, la fusion contrôlée sur Terre.
Oui, c'est un défi technologique immense. On y travaille activement parce que ce serait une source d'énergie potentiellement propre et quasi inépuisable. Mais on n'a pas encore de réacteur à fusion industrielle.
C'est passionnant tout ça. Donc si on essaye de résumer un peu, on a ce noyau atomique qui tient grâce à une énergie colossale liée à un petit défaut de masse.
C'est ça.
Certains noyaux sont instables et se désintègrent naturellement. C'est la radioactivité. Et puis, on peut soit casser de gros noyaux, la fission, soit fusionner de petits noyaux, la fusion. Et dans les deux cas, on libère des quantités d'énergie considérables.
Voilà, vous avez parfaitement résumé. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est cette dualité, hein. D'un côté, une physique qui nous donne des outils extraordinaires pour produire de l'énergie. Pour la médecine, on pense à la radiothérapie, mais aussi à des techniques plus pointues comme l'hadronthérapie qui utilise des protons. Et de l'autre, une puissance qui pose des questions fondamentales sur la sécurité et la gestion des déchets pour la fission. La recherche sur la fusion, c'est un peu la quête pour maîtriser sur Terre l'énergie propre des étoiles. Ça nous pousse vraiment à explorer les limites de ce qu'on comprend.
Une belle image pour finir. Et peut-être une question qui reste en suspens. Comment cet équilibre si subtil des forces, là, au cœur de l'infiniment petit du noyau, peut-il avoir des conséquences aussi gigantesques sur la vie des étoiles et sur notre propre avenir énergétique ici ?
C'est toute la beauté et la complexité de la physique nucléaire.